Français sont un peu fatigués d'aller aux urnes. Déjà qu'ils se déplaçaient de moins en moins, ça va être compliqué de les remotiver.
Retour au monde municipal, si vous voulez, Cécile Muscotti. Vous parliez d'environnement et beaucoup de vos collègues élus municipaux ont laissé entendre, en fait, c'est ce qu'elles disent pour la plupart, que pour sauver la planète au sens très large, pour protéger l'environnement, pour défendre l'écologie, c'est le monde municipal peut-être le mieux placé pour le faire. Êtes-vous de cet avis? Est-ce que vous pouvez sauver la planète, vous, en tant qu'élu municipal?
Je pense que à l'échelle d'un territoire, on peut vraiment accélérer les choses. Et on peut vraiment faire en sorte à la fois d'éduquer et de sensibiliser les jeunes et avoir des projets qui ont des répercussions rapides. Je prends un exemple chez nous, à Toulon. On a une maire qui a décidé de s'attaquer à la question des écoles. Parce que chez nous, dans le sud de la France, vous le savez, il fait très chaud et de plus en plus chaud.
Qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
La musique au créneau, l'émission qui vous plonge dans un tourbillon de notes et de rythmes captivants. Explorez avec nous l'univers musical sous toutes ses facettes, de classique intemporel au dernier hit. Préparez-vous à être transporté par des sonorités qui résonnent au cœur de vos émotions. La musique prend position et vous êtes invité à vous joindre à cette aventure sonore. La musique au créneau, là où chaque note compte.
Vous êtes à Montréal-Nord, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Avez-vous déjà visité le marché Béda? Au 10539 boulevard Bineuf, au centre commercial Forêt. Le marché Béda, là où la diversité et la fraîcheur se dégustent à chaque produit. Venez et profitez de nos produits. Le marché Béda, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Le marché Béda, venez vivre une véritable symphonie de saveurs. Le marché Béda, 10539 boulevard Bineuf, au centre commercial Forêt, 514-999-2191.
Vous voulez manger un bon mets créole, j'en mange la caille, Resto Cricrac est la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tasseau de cabri, tasseau de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez-nous voir dès maintenant au 91-85 boulevard Saint-Michel, près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours, même les dimanches. Téléphone 514-328-6166. Venez et voyez que Cricrac est vraiment bon.
Vous écoutez le 102.3
FM. Colana, Bousouami, Aoukolana, Ilonolose.
Voilà, alors, suite et fin de cette entrevue de Cécile Muscotti.
Plus de 35 degrés. Et donc, on a décidé d'enclencher des processus de revégétalisation de cours d'école, de sensibilisation à la gestion de l'eau, de l'utilisation des déchets alimentaires des cantines scolaires. Et vous voyez que tout ceci, finalement, à une petite échelle, peut véritablement enclencher un cercle vertueux, avoir des impacts réels, puisque quand on revégétalise, eh bien, on fait baisser la température. Parce que quand on utilise les déchets alimentaires pour son potager dans l'école, eh bien, on jette moins, donc on brûle moins d'ordures, donc on pollue moins. Et tous ces petits exemples montrent que oui, et c'est comme ça qu'il faut le faire, territoire par territoire.
Alors, si j'ai bien compris, votre groupe qui s'appelle Un vrai cap pour Toulon pourrait s'appeler Un vrai cap pour la planète aussi, quoi.
Exactement, exactement. Alors parfois on râle parce que les choses ne vont pas assez vite, une fois de plus. Après nous, on a la chance d'être dans un territoire qui a les moyens nécessaires d'agir, mais les moyens ne suffisent pas. Il faut de la volonté, il faut que les esprits soient convaincus et éclairés de l'urgence à agir.
Voilà, je le rappelle, Cécile Muscotti, donc conseillère municipale et conseillère métropolitaine de Toulon, toulon.fr pour en savoir davantage. Merci beaucoup et on vous souhaite un bon week-end.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Merci.
Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité. Une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Et François qui ne partira pas de sitôt puisqu'on n'a pas terminé avec la politique internationale.
Voilà, alors là on s'intéresse à la Commission européenne puisque au terme des élections européennes, on est en train de préparer le casting des 27 commissaires. Alors il y a évidemment Ursula von der Leyen qui a été reconduite pour 5 ans. Alors j'en ai discuté avec justement un ex-député européen, Dacian Ciolos, comment ça fonctionne les auditions parce que chacun des 27 commissaires est auditionné par un groupe d'eurodéputés. Alors, et au terme de cette audition, en général, ça devrait fonctionner parce que les choix sont quand même, disons, autorisés par les pays concernés, mais pas tout le temps. Bref, comment ça fonctionne? Dacian Ciolos, à lui la parole, Maestro Mourad.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On est en plein processus de commission européenne, d'audition, en fait, bientôt les auditions pour les 27 commissaires européens, ou enfin presque 27, puisque déjà Ursula von der Leyen, qui occupe le poste de commissaire en chef, donc il va le réoccuper pour une autre mandature après 2019-2024. Qu'en est-il des prochaines candidatures? Qu'en est-il des stratégies? Qu'en est-il du cheminement pour devenir commissaire? Pour en discuter, quelqu'un qui a vécu, c'est le cas de le dire tout ça, il s'appelle Dacian Ciolos, il est lui-même ex-commissaire européen, ex-premier ministre roumain et ex-député au Parlement européen et lors de la dernière mandature, président du groupe Renew. Et il a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Bucarest. Dacian, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, un très grand plaisir de avoir un contact avec des amis de l'autre Atlantique.
Voilà, ben ça nous fait un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors donc, nous sommes en plein processus de casting, c'est le cas de le dire. Alors, chacun des pays membres de l'Union européenne propose leur nom. Et on va commencer par le plus évident et peut-être même le plus officiel. Kaja Kallas, donc l'ex-première ministre d'Estonie, qui va occuper le poste de sous-commissaire, de commissaire aux affaires extérieures, donc à la place de Josep Borrell, et d'une certaine manière numéro 2. Et c'est pas quand même banal, puisqu'elle est estonienne collée sur la Russie. Dacian Ciolos, est-ce que Kaja Kallas, selon vous, va livrer la marchandise?
Autant que je la connais, oui. C'est une femme non seulement très déterminée avec une expérience politique, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'elle est Premier ministre de l'Estonie, mais elle a été aussi membre du Parlement européen il y a quelques années, donc elle connaît bien les affaires européennes. Et puis, le Premier ministre de l'Estonie, depuis que l'attaque de la Russie en Ukraine a commencé il y a quelques années, c'était une des voix les plus fortes des chefs d'État et des gouvernements de l'Union européenne vis-à-vis de cette agression russe en Ukraine. Donc sa tâche ne va pas être facile. C'est quelqu'un qui a des idées très claires et très clairement exprimées. C'est vrai qu'en tant que chef de la diplomatie européenne, il lui faudra aussi montrer son côté diplomatique. Moi, j'en suis certain qu'elle elle a ses qualités parce que, comme je disais, elle a déjà agi au niveau européen. Mais je pense que une de ses qualités, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va aller et j'espère qu'elle arrivera à mobiliser les États membres parce que je souhaite rappeler même si du point de vue du traité européen, on a un chef de la diplomatie européenne, il n'a pas les instruments qu'un ministre des Affaires étrangères d'un pays au monde l'a, parce que elle a derrière elle 27 ministres des Affaires étrangères des États membres. Et il y en a certains qui sont plus vocaux que d'autres, notamment le ministre des Affaires étrangères de grands pays européens, Allemagne, France, même Espagne, Italie, Pologne. Et donc, il faudra composer avec des opinions nuancées de certains États membres. Mais bon, en tout cas, Kaya Kallas, comme je disais, c'est quelqu'un d'expérimenté, avec des idées claires, et personnellement, j'en suis sûr qu'elle sera plus active et plus efficace que Joseph Borrell ne l'a été pendant ce mandat qui va clôturer bientôt.
Voilà, réponse le 1er décembre, mais c'est pratiquement acté dans son cas. Alors, faut-il le préciser, Ursula von der Leyen aura 6 vice-présidences exécutives, donc 6 parmi tous ces commissaires qui vont travailler vraiment de près avec elle. Commençons par le plus évident, Stéphane Séjourné, qui remplace Thierry Breton. Le départ de Thierry Breton, d'abord et avant tout, est-ce que ça vous a surpris?
Je pense que ça a surpris beaucoup de monde, parce que bon, la France, non seulement qu'a présenté sa candidature à sa propre succession à la Commission européenne, mais je sais que le président Macron s'est même battu pour que Thierry Breton reste commissaire. Il a eu une situation un peu tendue politiquement en France, et puis ça n'a pas été facile non plus au niveau européen avec Ursula von der Leyen, parce que bon, Thierry Breton, c'est quelqu'un qui n'a pas tenu sa langue dans la poche. C'était quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans le secteur privé, mais aussi dans l'administration. Et donc, je pense que ça a surpris beaucoup du monde, cette décision de dernière minute. Mais de notre côté, en connaissant bien Stéphane Séjourné, parce que on a travaillé ensemble dans le même groupe politique au Parlement européen, on a été collègues au groupe Renew, même si c'est un tout autre profil que Thierry Breton, c'est quelqu'un qui connaît bien la politique, c'est un bon négociateur. C'est quelqu'un qui sait rassembler des gens autour de lui, et c'est un peu ce qu'on demande aussi à un futur vice-président exécutif à la Commission, où il devra non seulement gérer un portefeuille, mais aussi coordonner ce qu'on appelle un cluster de commissaires pour canaliser les énergies, les ressources vers des objectifs politiques importants pour l'Union européenne dans les années à venir.
Alors, il aura comme collègue votre compatriote Roxana Mitsetou, qui est pressentie au poste de vice-présidente exécutive chargée des personnes, des compétences et de l'état de préparation. Est-ce un bon choix?
Bon, Roxana Mitsetou, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'administration, y compris au niveau gouvernemental, qui est moins marqué politiquement, mais qui est quelqu'un de très pro-européen, plutôt jeune, avec une vision sur le domaine qu'elle aura à gérer, un domaine qui n'est pas couvert par les traités de l'Union européenne, donc qui ne donne pas beaucoup de compétences pour l'Union européenne, parce que vous savez qu'on a des domaines politiques qui sont des compétences européennes, et on a d'autres domaines politiques qui restent des compétences nationales, où l'Union européenne n'a pas le pouvoir de légiférer. Mais dans ces domaines, comme c'est le cas de politique sociale et de l'emploi, l'Union européenne, la Commission européenne peut inciter les États membres à travailler ensemble sur des sujets qui sont importants pour l'avenir de l'Union. Donc, ça va être le rôle de Roxana Mitsetou sur la politique de l'emploi, des compétences. C'est un domaine qui est important non seulement socialement, mais aussi économiquement, parce que quand on parle d'une réindustrialisation, d'une réorientation économique au niveau européen vers une économie plus verte, une économie plus digitale, on parle aussi tout de suite des compétences. Donc, il ne suffit pas d'investir pour développer ces secteurs économiques, ces industries spécifiques, le verdir et le digitaliser. mais il faut aussi des gens qui aient des compétences. Donc là, l'Union européenne et la Commission européenne aura le rôle de mettre sur la table des États membres et du Parlement européen des programmes pour stimuler les États membres à travailler ensemble pour la formation professionnelle, pour qu'on a des gens compétents. Et donc, bon, Roxana Mouzatou a déjà une expérience en Roumanie dans le gouvernement d'avoir travaillé avec des fonds européens et sur ce type de programme. C'est quelqu'un de jeune. Le fait qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience politique, ça peut être un atout aussi parce que elle peut venir avec une vision plus fraîche sur ce que les citoyens attendent. Et c'est un portefeuille qui, par excellence, suppose un contact direct avec les gens. Moins de la bureaucratie, moins de la politique politicianiste, et plus de contact avec les gens, et notamment avec les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui attendent que l'Union européenne leur propose des perspectives de l'avenir, notamment du point de vue professionnel.
Voilà, le temps file. J'aimerais quand même terminer avec le nom qui risque de, de vivre un baptême de feu. Elle s'appelle Raffaele Fitto, vice-présidente exécutive chargée de la cohésion et des réformes de l'Italie. Va-t-il passer son test d'après vous? En d'autres mots, est-ce que Giorgia Meloni aura son mot à dire?
Le mot de Giorgia Meloni s'est arrêté au moment où elle a proposé ce nom. Maintenant, elle n'a pas une influence sur ce que les europarlementaires vont décider. Donc c'est difficile à prévoir ce qui va se passer parce que, bon, d'un côté, Raffaele Fitto a été proposé par un premier ministre conservateur considéré comme d'extrême droite, même si c'est pas l'extrémisme de Marine Le Pen, par exemple, mais elle est quand même perçue comme étant droite forte conservatoire. L'avantage de Raffaele Fitto, c'est qu'il a derrière lui un mandat de membre du Parlement européen et de président d'un groupe politique au Parlement européen. Donc, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est quelqu'un de modéré, même s'il vient d'une ligne politique plutôt conservatrice d'extrême. Lui, personnellement, c'est quelqu'un de plutôt modéré. Donc, on verra s'il va être capable de convaincre non seulement avec son attitude. Je pense que le Parlement va attendre de voir une attitude à l'écoute et de voir qu'est-ce qu'il envisage de faire avec le portefeuille qu'on va lui proposer. Mais il est clair que le groupe politique de centre et de gauche du Parlement européen vont le prendre comme cible. Mais vous savez, au Parlement européen, il y aura aussi une négociation parce que sans doute le groupe de droite auront aussi des cibles, des commissaires qui viennent de familles politiques de gauche. Donc, il y aura sans doute une négociation, mais tout d'abord, ça va beaucoup dépendre de l'attitude de Raffaele Fitto et si il a une vision qui peut rassembler des opinions et des idées, non seulement de droite, mais aussi de la zone de centre.
Voilà, réponse le 1er décembre et début du tournoi, pour faire une analogie footballistique, au mois de novembre. Dacian Ciolos, Multsomets.
Cu plăcere, avec un grand plaisir.
Merci beaucoup.
Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste.
François, avant de te laisser partir, Jessica, tantôt tu nous disais hors d'onde,
oui.
Ce qui semble être une bonne nouvelle.
Oui, qu'on va dire hors d'onde.
Pour le sport féminin.
Voilà, donc cette semaine, je soulignais Fanfan, la Ligue nationale de hockey a lancé ses hostilités et à peu près à tous les matchs, on a présenté les équipes évidemment et le personnel. Côté Kraken de Seattle, l'assistante entraîneur s'appelle Jessica Campbell. Donc, c'est une femme et c'est une première dans la Ligue nationale. La numéro 2 de ce club est une femme, Jessica Campbell, ex-joueuse de hockey de la sélection nationale canadienne, 32 ans, née en Saskatchewan, et qui va donc assister en tant que coach le Kraken de Seattle. Ce qui veut donc dire qu'advenant une vacance du poste d'entraîneur-chef durant la saison, ça peut arriver, ben elle pourrait finalement peut-être devenir entraîneur-chef. Ça reste à voir. Je ne souhaite pas de malheur à ce club, mais Jessica Campbell, donc quand même qui prend le poste de numéro 2, c'est quand même historique. Là.
Elle a seulement 32 ans.
Seulement 32 ans, donc prochaine étape, une équipe à elle seule qu'elle pourrait diriger. Avouez que ça serait incroyable, ça serait historique.
Mais intéressant hein, de voir des hommes qui vont coacher des femmes ouais. et une femme qui coache
voilà.
des
Mais
hommes.
Quand des hommes coachent des équipes de femmes, ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de coachs femmes aussi. Là. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup d'appelés non plus.
Maintenant, Mais... qu'est-ce que ça veut dire de savoir que
Oui,
Jessica
voilà, exactement, exactement. Donc, elle a fait son bout de chemin dans un terrain vraiment pas très, très ouvert aux femmes, on va se le dire, très hostile, et a réussi à être assistante coach dans une ligue entièrement masculine et assez conservatrice, on va se le dire. Là. C'est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment une journée historique cette semaine. Quand elle a été présentée, elle a eu une ovation debout. Alors, évidemment, on lui souhaite bonne chance à son équipe, mais on lui souhaite bonne chance aussi dans son travail, vis-à-vis 25 machos probablement aussi. Là.
Mais oui,
alors,
mais oui.
Je n'ai rien présumé, mais bon. Voilà.
Moi, je lui souhaite un Excelsior, puis voilà. Je suis très content de... et qu'elle sert d'exemple aussi à d'autres
voilà.
sportifs.
Donc, voilà, pionnière. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? On le souhaite.
Ouais. No lo sé Su Hambinami
Ne sont pas aussi joyeuses Ismaïl, hein, d'où ta présence aujourd'hui parce qu'on a repêché le corps de la jeune Congolaise cette semaine.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bon, écoutez, Arlette, beaucoup de monde ont entendu un cri d'alarme d'une mère congolaise éplorée, donc qui appelait à l'aide pour retrouver sa fille qui était portée disparue le 2 octobre. Et puis, ça a fait six jours mm-hmm. au complet pour retrouver finalement son corps.
Je pense que c'est une histoire qui a touché tout le monde.
Ça a touché
beaucoup
de monde.
Toutes les familles se sont senties concernées. Elle s'appelle Alexandra Martine Diengo Lubayi. Donc, elle a été retrouvée dans le fleuve Saint-Laurent oui. mardi.
Ben, en fait, c'est le fleuve Saint-Laurent à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice.
C'est
Saint-Quentin,
je pense.
Oui,
Saint-Quentin.
Donc, c'est la rivière Saint-Maurice. Il y a une île qu'on appelle Saint-Quentin.
C'est ça.
Mais oui. Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'est réellement passé?
Bon, jusqu'à là, les informations restent très... Il n'y a pas de détails vraiment qui sont donnés par la police.
Parce que son copain est accusé, d'autres personnes sont accusées, mais il n'y a rien qui est vrai jusque-là.
Voilà. Si on se fie aux spéculations, aux rumeurs, c'est avant-hier que j'ai appris que ce garçon, ce jeune homme qui était son colocataire, le colocataire d'Alexandra, il aurait tenté de quitter le pays. Et puis, il a été arrêté.
Est-ce qu'ils sont du même pays?
Non, ça, c'est le garçon, il est caucasien, il est blanc, c'est pas un noir. Alors, tout ça, c'est pas encore bien clair. Mais je vais peut-être vous raconter l'histoire de comment ce corps a été retrouvé.
Mais on souhaiterait savoir mardi, parce que ça va servir de sensibilisation aussi à d'autres jeunes, d'autres familles,
exact.
Pour éviter que de tels cas arrivent.
Il faut voir que quand nous étions là le 6 avril, mm-hmm. le 6 octobre, c'était jeudi. Non, c'était...
C'était dimanche pas. Le 6.
Non, c'est le 8 que le corps...
Le mardi, c'était mardi 8.
C'était le 8.
Mardi.
Le corps.
C'est le 8.
C'est mardi passé.
Oui, c'est mardi que le corps a été retrouvé. Mm-hmm. Donc, après six jours de recherche, mais il faut vous dire que lundi, la police avait suspendu ses recherches. Et puis, mais la population, surtout la communauté congolaise, la communauté mm-hmm. africaine là-bas, ils ont insisté, non, c'est impossible. Mm-hmm. Et la police leur a laissé le droit d'aller chercher eux-mêmes. Mm-hmm. C'est à ce moment-là que Radio Centre-Ville s'est retrouvé là-bas. Je faisais partie des personnes qui sont parties à la recherche de cette personne.
Moi, ce que j'ai trouvé d'un côté, je dis intéressant dans le sens où ça a permis de montrer aux gens combien on peut être solidaire. Ouais. Malheureusement, c'est toujours dans des moments difficiles qu'on l'est. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens de la communauté haïtienne. Donc c'est la communauté noire qui s'était sentie concernée et qui se sont mis...
Exactement.
Les gens se sont mis ensemble. Justement, moi, j'ai trouvé que c'était une belle preuve pour démontrer aux gens on est capable d'être ensemble et de se soutenir l'un l'autre.
Et il faut déceler en cela la foi.
Oui.
Il y a de la foi dedans parce qu'avant de se disperser dans la forêt, il y a une maman africaine qui a dit, écoutez, chers frères et sœurs, nous sommes africains.
On se dépassera
et on ne peut pas abandonner comme ça.
Non.
Nous devons arriver à quelque chose.
C'est ça.
Il a dit, nous allons invoquer nos ancêtres. Voilà. Donc, on y est allé avec cet esprit-là, avec espoir qu'il y aura quelque chose. Et effectivement, une heure seulement après la recherche, on a entendu des voix ici et là. Ils disent, OK, venez. Tout le monde a couru. Et en arrivant à côté de la marina, nous avons appris que le corps venait d'être repêché. Ce n'est pas la police qui a trouvé le corps, il faut mentionner ça. C'est juste quelqu'un, un kayakiste, qui se promenait dans le fleuve, qui a trouvé le corps, qui flottait, et puis il a alerté la police.
Et demain, Mourad, il y a une émission spéciale, si j'ai bien compris, à Radio Centre-Ville.
Ben oui, et demain, la même heure qu'aujourd'hui, hein, de 13h jusqu'à 15h, même peut-être on va déborder jusqu'à 16h, il y a une émission spéciale où on va justement évoquer, on parle de ce drame-là pour essayer de comprendre à peu près ce qui se passe. Alors il va y avoir bien sûr Ismaël qui va nous accompagner avec bien sûr les nouvelles tout autour de ça. On aura aussi Clémentina Santos, la présidente de la radio, qui viendra aussi apporter son témoignage par rapport à ce genre de situation. Et on aura aussi Raymond Kashiba, qui est le président du conseil d'administration de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, du côté d'Ottawa. On aura aussi une psychologue, Samia Mektoul, qui va être là pour nous expliquer comment faire face à ce genre de situation sur le plan psychologique. Et on aura aussi Andy Langan, qui est le créateur de contenu et directeur des opérations Bokota TV. Et bien sûr, il y aura aussi Piggy Civil qui va être avec nous, pour en quelque sorte cette émission spéciale. Alors demain, 13h, 15h sur 102.3 FM, une émission spéciale autour justement de ce drame-là, du décès de Alexandra Martine Diengo Lombaï.
Merci Mourad. Ismaël.
Ce que je peux dire, c'est que le sens que cette émission spéciale veut apporter, c'est qu'il y a, il doit y avoir l'union de la voix. Donc, on va unir les sons pour analyser.
Et je pense que Radio Centre-Ville, c'est le bon médium.
Surtout
pour ça.
Il reste beaucoup de questions qui restent non résolues. Vous savez, la police est toujours très avare en ce qui concerne les détails comme ça. Mais il y a la communauté de femmes de cette région-là, à Trois-Rivières, qui a dit que cela ne doit pas rester comme ça. Il doit y avoir quelque chose. Elles ont interpellé les autorités. Je peux dire qu'il y avait beaucoup de frustration vis-à-vis même des recherches qui étaient effectuées pas suffisamment par la police, d'après eux. Ouais.
Et si on parle d'afro-réalité, mon ami?
Afro-réalité, il faut dire que...
Ça fait longtemps quand même.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas afro-réalité. Mais je reviens toujours avec ces soucis que je porte toujours pour l'Afrique. Si je vous disais que la France et l'Europe en général se préparent à une guerre contre l'Afrique, est-ce que vous y croirez?
pourquoi ne pas y croire, hein? Tout uh-huh. est possible.
Je ne pense pas que les guerres sont arrêtées. Hein?
Non.
C'était tout juste est les coups de feu qui sont arrêtés. La guerre continue. Hein?
Les moyens peuvent
mais
changer.
Mais la déclaration de guerre est quelquefois très différente. Mm. Parce que le général, un ancien général de l'armée française, donc le chef des armées, il a dit que la démographie africaine fait peur. Et pour résoudre ce problème, il faudra un jour aller chercher la réponse à ça et engager l'armée si possible. Quand on engage l'armée contre une population, une démographie, qu'est-ce qui se passe? On va tuer les gens. Mm-hmm. Est-ce qu'on a la chronique que je vous ai préparée?
Oui.
Ah ben, on peut l'écouter. C'est beaucoup plus condensé. Afro réalité chronique, remue ménage, brise tabou et casse mentalité. Amahoro, ce sont mes salutations de paix africaine. Ici Ismaïl Mbonigaba, bienvenue à tous.
En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées.
Il y a des propos que l'on entend et ça vous donne matière à réflexion. Sur l'intelligence humaine, ces propos qui, en fait, donnent froid dans le dos. Imaginez un général français, et pas des moindres, un ancien chef d'état-major des armées. Il dit sans embâge que, pour leur survie, la France et l'Europe devront bientôt prendre des armes et marcher sur l'Afrique. François Lecointre explique que c'est une prise de conscience collective qui s'impose, vu la menace que représente la démographie galopante africaine sur le vieux continent. Pour parer à cette pseudo-menace, le général Lecointre prône une stratégie qu'il croit adaptée. On va déployer toutes les machines de guerre dont disposent l'Europe et la France, bien sûr. Et on va user de toutes les armes, y compris la bombe à napalm et peut-être l'arme nucléaire. Ce n'est pas la première fois que ces bombes auront été utilisées en Afrique. L'Algérie méditerranéenne se souvient, le Cameroun africain se souvient. Mais une question que l'on peut se poser, c'est en quoi les milliers d'Africains massacrés pendant l'esclavage, pendant la colonisation et pendant la guerre des indépendances constituaient-ils une menace? En tout cas, peu importe la menace, réelle ou supposée, la vérité se trouve dans les fables de La Fontaine. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Mais un proverbe africain, pour ne pas dire un proverbe rwandais, met en garde les bullies de ce monde, les intimidateurs. L'ennemi qui ne s'épargne pas vous défie au combat. Ou kwanza tiretsa girango turwane.
Quand on fait la guerre, on va tuer des gens. Et on ne va pas seulement risquer sa vie. Et d'ailleurs, je pense que le fait de risquer sa vie est acceptable pour un soldat parce que précisément, ça lui permet de rééquilibrer l'espèce de tabou absolu qu'il transgresse en allant donner la mort. Parce qu'il le fait au prix de sa propre vie. À partir du moment où on pose cette évidence, le métier militaire conduit à un engagement aussi fort, aussi extrême, on pose évidemment, avec beaucoup plus acuité, la question de la légitimité du combat. Il y a une légitimité du combat qui ne s'interroge pas, c'est la défense de son pays.
Le fantasme impérialiste et colonialiste reste très vif dans certaines têtes occidentales et l'idée d'autodétermination des nations africaines est considérée comme une rébellion qu'il faut mater à tout prix par tous les moyens possibles. C'est à cela que le général français fait allusion quand il parle de la destruction des appareils d'État ou de chaos. Effectivement, pour illustrer les tentatives non-stop de créer le chaos dans les trois États du Sahel qui viennent de se confédérer. L'AES est constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pour le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, les impérialistes, en d'autres mots, les anciennes puissances coloniales, n'ont pas encore changé de logiciel.
Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays.
Mais on se moque de qui en ce 21e siècle? On continue de penser que l'Afrique n'est pas viable sans l'assistance de l'Europe? Franchement, cette arnaque ne tient plus debout depuis longtemps. Le général Lecointre en est conscient et sait qu'il dit l'opposé de la réalité. Il sait que le chaos africain a toujours été entretenu par l'Europe et l'Amérique dans le seul but de piller le continent à l'aide des pions qu'il place frauduleusement au pouvoir. Le général Lecointre dit lui-même que le destin de la France et de l'Europe tient sur la Méditerranée et sur l'Afrique. Bref, la guerre a été déclarée et sera menée pour s'assurer un espace vital en Afrique. Et j'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds, car cette fois-ci, on veut l'Afrique sans les Africains. Qu'est-ce qui n'est pas clair?
L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent, nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procède-t-il? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autres repères que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos états, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservé chez le maître, ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États...
Il y a une légitimité du combat qui ne s'interroge pas. Là, je cite le général Lecointre. Cette légitimité du combat, celle de défendre son pays, doit faire l'objet de l'enseignement à tous les niveaux d'éducation en Afrique. La prise de conscience collective, telle l'alliance des États du Sahel, est impérative jusqu'à la véritable union africaine. Et on verra.
Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée.
Chers auditeurs et auditrices, chers amis, Afro-Réalité vous invite à méditer cette vieille sagesse, mais qui reste d'actualité. Pour dire, à force d'acculer un homme à la peur, on finit par le rendre intrépide.
Ah,
temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Dans le langage vernaculaire haïtien, on dit toujours ne jamais réveiller un lion qui dort. Faites attention. Depuis quelques temps, on parle beaucoup d'immigration. Ça devient quand même un enjeu extrêmement important. Si on revisite les déclarations des divers chefs de parti ou de représentants de parti. Donc, on sait, quand on parle d'immigration, il est impossible de ne pas prendre en compte l'apport des immigrants au développement économique d'un milieu ainsi qu'à la vie sociale et politique de ce milieu. Qu'en pense Wanex Lalanne-Zéphir, directeur général de Radio Centre-Ville? Bonsoir, Monsieur Lalanne.
Bonsoir, Madame Josué. Merci pour l'invitation encore une fois. Et je commence tout de suite pour dire que l'immigration ne doit pas être perçue comme un fléau destructeur ou dérangeant pour les pays de destination. La contribution fiscale des migrants dépasse de loin la charge que ces derniers auraient infligée au gouvernement ou à la société. Ce n'est pas sans raison qu'on retrouve des migrants dans toutes les sphères de la société. Il est reconnu que les immigrants favorisent la croissance des pays de destination. Selon Statistique Canada, les immigrants contribuent énormément dans tous les secteurs de l'activité, alors dans tous les secteurs de la vie nationale. D'après une étude réalisée par Statistique Canada, les immigrants de 25 à 54 ans représentent en 2021 plus de 36% des personnes travaillant dans les services d'hébergement et de restauration. 38% des personnes travaillant dans le secteur du transport et de l'entreposage sont des immigrants. 34% des personnes travaillant dans les services professionnels, scientifiques et technologiques sont des immigrants. Et plus de 20% travaillant dans la construction sont aussi des immigrants. Ceci dit, les pays développés ont besoin de l'immigration. Par exemple, dans quelques années, le Canada aura besoin près de 2 millions de travailleurs étrangers seulement dans le secteur de la santé. La raison est fort simple. Plus de 420 000 employés de la santé vont prendre leur retraite très bientôt. Donc, les immigrants seront bienvenus au Canada. Au moment où l'on se parle, du côté des infirmiers, on compte 25% d'immigrants. Auxiliaires infirmiers, 42%. Pharmaciens, 43%. Médecins, 37%. Dentistes, 45%. Technologues dentaires, 61%. Avec de tels chiffres, on peut comprendre pourquoi la politique s'intéresse à l'immigration. L'immigration reste et demeure un catalyseur pour l'économie et pour la politique. Pour en jouer pleinement, il faut que les dirigeants préparent l'arrivée des immigrants. Radio Centre-Ville propose que le nombre de garderies soit augmenté. Il en est de même pour les écoles, pour les maisons. Pour cela, il faut une vraie politique d'immigration, car les migrants enrichissent culturellement et économiquement tous les pays de destination.
Lalanne Zéphir, directeur général de Radio Centre-Ville, vous êtes avec nous? Ah, il est parti.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zunangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, sowami au kulana ilondoloze zuhambenami dauyami aiku.
L'Université du Québec lève un drapeau jaune-orange face aux intentions du ministre Jean-François Roberge qui veut limiter le nombre d'étudiants étrangers. La Fédération des cégeps s'inquiète du flou autour de la mise en œuvre des visées du gouvernement. Selon le journal La Presse, les cégeps et universités accueillent avec prudence le projet de loi 74. Déposé jeudi par le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge se donne d'importants pouvoirs pour limiter le nombre d'étudiants étrangers au Québec, mais ne se fixe pas de cible de réduction. Le président de l'Université du Québec, M. Alexander Cloutier, estime que le projet de loi du ministre pourrait avoir une multitude d'effets négatifs si ces nouveaux pouvoirs sont mal utilisés par le gouvernement. Ça peut avoir des impacts sur la vitalité de certains programmes, sur la recherche, sur le développement régional ou sur l'emploi, et même sur nos ententes avec des partenaires à l'international, a énuméré le président. L'Université Concordia a répliqué dans un courriel à la presse que la croissance du nombre d'étudiants étrangers... Je suis perdue. C'est ça que ça donne comme résultat de chirurgie. Hein? Je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer que je puisse lire sans et en tournant la tête, parce que j'ai juste tourné la tête puis j'ai perdu la ligne. Voilà. Donc, on fait des chirurgies pour améliorer la vue, mais en tout cas. L'Université Concordia a donc répliqué dans un courriel à la presse que la croissance du nombre d'étudiants étrangers se voit plutôt dans les universités francophones, en partie en raison du financement gouvernemental accordé pour le recrutement à l'international que les universités anglophones ne reçoivent pas. Pour d'autres nouvelles... Québec ordonne une enquête sur 11 enseignants d'une école primaire de Montréal. Selon ce que rapporte Radio-Canada, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, ordonne la tenue d'une enquête sur un groupe de 11 enseignants de l'école primaire Bedford dans l'arrondissement Côte-des-Neiges à Montréal qui faisait régner un climat toxique de peur et d'intimidation au sein de l'établissement, selon un rapport remis au ministre. C'est une série de reportages diffusés en 2023 sur les ondes du 98.5 FM et du groupe Cogeco rapportant la présence d'un climat de peur et d'intimidation à l'école Bedford, qui avait incité le ministère de l'Éducation à se pencher sur ces allégations. Deux écoles de Laval ont reçu des menaces, les élèves confinés. Des opérations policières étaient en cours à l'école des métiers spécialisés de Laval ainsi qu'à l'école secondaire police jeunesse où des mesures de confinement préventif ont été décrétées. Selon le sergent Laurent Arsenault du service de police de Laval, des menaces visant l'EMS ont été reçues vers 11h30 mercredi matin, ce qui a déclenché le déploiement de nombreux policiers sur le terrain de l'établissement situé à l'angle du boulevard du Souvenir et de l'avenue Bois de Boulogne. Place à nos organismes communautaires, le Centre d'appui aux communautés immigrantes CACI présente le projet ITMAV, dont le but est d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées de plus de 55 ans en situation de vulnérabilité ou à risque de le devenir. Dans le cadre de ce projet, le CACI établit une connexion vers des ressources de leur communauté du quartier Bordeaux-Quartier-Ville, tout en favorisant leur autonomie, en leur donnant l'opportunité de faire des choix comme une démarche personnelle d'appropriation du pouvoir d'influer sur leur vie. En entrevue à Radio Centre-Ville, la responsable du projet ITMAV, Inès Alexandra Ayala, a livré les détails sur son travail quant aux objectifs, voire des défis à relever. Elle était au micro de notre collègue Ismaïl Mbonigaba.
Le ITMAV, ainsi le travail de milieu, son objectif, c'est de faire un travail personnalisé. Alors, si l'on veut faire un travail personnalisé et rapprocher les services publics et communautaires du secteur, et il faut avoir un peu comme un aperçu et une connaissance de ce qu'il y a dans le quartier et ce qui peut être utile pour les personnes du secteur.
Et vous avez donc identifié les personnes, les bénéficiaires de ce projet. À quel nombre est-ce qu'ils peuvent être évalués dans le secteur que le CACI va couvrir?
Mon travail consiste à faire un repérage
Oui.
Des personnes qui ont besoin de notre aide, comme l'UTMAV. Alors, le repérage se fait de plusieurs façons, comme des visites sur le terrain, ou en mettant l'œil, si on peut dire, sur les endroits surtout fréquentés par le groupe, comme les pharmacies, les églises, les cafés, les boulangeries, surtout les boulangeries qui ont accès, qui donnent accès à une table pour prendre un café. Et en plus, j'utilise beaucoup aussi, comme vous dites, le cassis a une très grande clientèle. Et le cassis aussi a des services surtout dans l'aspect migratoire, mais nous avons vu qu'il y avait un grand besoin d'aller en plus en profondeur dans les services qu'on pouvait donner, surtout dans ce groupe objectif des aînés. Alors, j'utilise aussi les ressources internes pour faire du repérage, les activités. Si je vois qu'il y a des activités ou des séances d'information qui peuvent être intéressantes pour les personnes aînées, je participe pour promouvoir le projet et leur mettre en leur connaissance les services que je peux leur apporter.
Et en fait, vous vous approchez de ces personnes.
Exact.
Et vulnérables, bon, selon leurs besoins. Donc, leurs besoins, ils sont de quel ordre? Donc, je veux parler de besoins spécifiques de ces gens. On sait qu'ils sont nombreux, bien sûr. Mais alors, lesquels classez-vous comme prioritaires?
Nous avons pu identifier 5 catégories spécifiques. Mm-hmm. Dont, en ordre d'importance, administrative, de sociabilité, santé, domestique, et mobilité, pardon.
Okay. Mm-hmm.
Alors, ça serait administrative, santé, mobilité, domestique, santé.
Pouvez-vous élaborer plus?
Alors,
parce que
dans les administratives, qui a été le plus grand nombre d'interventions demandées ou d'aides demandées par les personnes que j'ai reçues,
oui.
Ça a été surtout pour remplir des formulaires, recevoir de l'information, avoir accès à cette information.
L'utilisation de l'ordinateur, disons.
Exactement. Les impôts. Parce que, par exemple, les formulaires, oui, ils sont disponibles en ligne, mais nous nous rencontrons, ils rencontrent la difficulté que c'est des formulaires en ligne, ils ne savent pas comment y accéder. Et aussi, il y a la taille de la lettre, des formulaires qui est difficile à lire pour eux.
La visibilité de la lecture
la
en général.
Oui. Exactement. Alors, ça, c'était une grande partie des interventions qui ont été demandées. Dans le cas de santé, ça a été surtout faire des contacts avec la RAMQ. Et il faut faire une parenthèse ici, parce que surtout dans le quartier Bordeaux-Quartierville, nous recevons nous avons une population, une très grande population qui sont membres de communautés immigrantes. Alors, une des difficultés, ça a été le langage. Alors, plusieurs personnes, surtout si on parle directement des personnes aînées. Ce sont alors une grande partie des personnes aînées ont immigré au Canada à un âge avancé. Alors, pouvoir parler.
Quels sont les défis linguistiques, vous voulez dire?
Les défis linguistiques qu'ils rencontrent sont très grands. Mm-hmm. Alors, dans le cas de santé et de l'administratif, la contrainte linguistique est importante. Alors, dans le cas de santé, faire les contacts avec la régie de la direction de l'assurance maladie, prendre des rendez-vous, comprendre les instructions qu'ils reçoivent d'un médecin, comment aller comprendre les examens de laboratoire. Alors, tout ça, ça a été des contraintes qu'on a cherché à diminuer pour eux. Alors, on a fait un très beau travail avec nos collègues du CACI, parce que comme vous avez rencontré Valérie est la coordinatrice de tous les chargés de projet, qui sont nombreux ici au CACI. Alors, et nous avons des collègues très enthousiastes, très, très, comment qu'on dit,
motivé.
Très motivé. Alors, quand j'avais une contrainte, je cherchais où pouvoir rencontrer les solutions. Alors, dans le thème linguistique, on a un programme qui s'appelle Ici Santé. Alors, dans ce cas en particulier, prendre des rendez-vous, pouvoir aller voir un médecin et comprendre. On a pu trouver des solutions avec l'accompagnement d'un bénévole, dans ce cas-ci, que même nos collègues en charge du projet les aidaient à chercher les ressources en santé et prendre des rendez-vous.
Voilà. Et la mobilité, je pense que c'est un autre défi. Oui.
Oui, la mobilité, ça a été surtout la demande pour le transport adapté de la STM. Alors, remplir le formulaire encore, mais les aider à faire la demande pour avoir le transport adapté, pour pouvoir sortir de l'isolement, c'est très important. Alors, on peut dire c'est seulement remplir un formulaire, mais l'objectif final ici du transport adapté, c'est pouvoir sortir de l'isolement.
Mm-hmm.
Vous voyez? Alors, en santé aussi, il y avait quelques cas, s'ils avaient besoin d'un appui psychosocial, alors faire les connexions avec les ressources pertinentes.
Quel est le genre de défi que vous-même, Inès, vous pouvez rencontrer dans l'exécution de ce projet?
Les défis ont été comme... C'est pour ça que je trouvais important de mentionner un peu les caractéristiques du secteur. Parce que un des défis, ça a été la communication avec certains groupes.
Oui.
Heureusement, comme je disais, nous avons les ressources comme Cassie. Alors, je devais demander l'appui à certains collègues pour comme interprète. Mm-hmm. Mais on a vu quelque chose de très intéressant avec notre activité. Nous avons une activité hebdomadaire qui est un café rencontre avec un groupe. Et cela nous a permis que le groupe comme tel tisse des liens très serrés, très d'amitié. Alors, dans ce cas de barrière linguistique, on a vu que tout naturellement, des fois, comme qu'un inconnu s'intègre à la conversation n'était pas très très bien reçu.
Oui.
Mais dans le même groupe, les personnes disaient « Est-ce que tu peux m'aider à faire la traduction? »
Mm-hmm.
Alors, c'est comme ça que ça a été comme un échange et j'ai vu ça comme très intéressant parce que ça me démontrait que cette activité est d'une grande importance pour eux, tant pour rompre l'isolement, pour les conversations, et me permettre aussi de faire des interventions plus personnalisées, plus approfondies avec l'aide d'eux-mêmes.
Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethno-culturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Cette édition de l'émission Diversité a été rendue possible grâce à la collaboration de Wanex Lalan Zéphir, directeur de Radio Centre-Ville, François Roberge de l'émission L'Histoire jugera, Ketoni Saint-Ville, Yves-Patrice Mérisier en direct d'Haïti, Fanfan Turenne, Mourad Mahamli, Ismaël Bonigaba, Mourad Mahamli encore une fois, Mao Huerta en direct du Mexique et à la présentation Arlette Josué. Rendez-vous samedi prochain 13h-15h pour une autre édition de l'émission Diversité. Et je vous laisse en compagnie de nos collègues de l'émission Convergence. Bonsoir à tous. Busowa mi, aukulana.